sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Manifester et résister sont les deux verbes qui reviennent le plus souvent dans la vie d'Aliki Papadomichelaki, fille d'une tradition grecque qui lutte pour l'insoumission, fille de deux héros militants antifascistes. Cette brune piquante aux cheveux blancs aujourd'hui est une bombe d'humanité. Je sais bien que les deux mots ne vont pas très bien ensemble, mais après cette conversation, peut-être que vous changerez d'avis. Elle qui a connu les camps de concentration de Macronissos avec sa mère, elle s'est construite sur un militantisme de gauche au gré des révolutions tchécoslovaques, algériennes et grecques durant la dictature des colonels. Épouse du militant algérien Sader Kadjares, que nous recevions il y a peu en sol majeur, Aliki Papadomichelaki, économiste de formation spécialisée en géopolitique, savoure la victoire de Syriza, dont elle a été pendant 10 ans responsable du département politique extérieur et membre du comité politique central. Un portrait qui ne peut qu'honorer ce 8 mars, journée internationale des femmes. Aliki Papadomichelaki, bonjour.
Bonjour à vous et à vos auditeurs.
C'est gentil. Est-ce que femme politique de gauche, c'est forcément synonyme de féministe?
Pourquoi pas? Quand j'étais jeune, je voulais me battre pour la justice parce que j'étais de gauche. Aujourd'hui, je dis, je me bats pour la justice parce que je suis une femme de gauche. Et une femme, elle doit se battre pour la justice, pour l'avenir, parce qu'elle enfante l'avenir, une femme.
Quelle belle image. En tout cas, votre parcours, il y a bien des hommes qui ne l'auraient pas fait. Ça, c'est une petite parenthèse. On va commencer par votre actualité et surtout celle de votre premier pays, Aliki. C'est-à-dire par l'arrivée du pouvoir de la gauche radicale grecque et la voix très lyrique du nouveau premier ministre, Alexis Tsipras.
Syriza est le visage d'une Europe qui change. C'est le visage des travailleurs, des chômeurs, des retraités, des jeunes femmes et les jeunes hommes. Le visage des travailleurs indépendants, des petites et moyennes entreprises. Le visage des paysans. Tous ces gens ont pris la décision de changer leur pays, de tourner une page, pour que la Grèce redevienne enfin un pays civilisé, pour que nos concitoyens ne meurent pas de froid parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures d'énergie, pour qu'aucun d'entre nous, aucune de nos familles ne soit laissée sans rien à manger. Nous nous engageons pour les besoins essentiels de notre peuple. Nous ne laisserons pas les banquiers confisquer le logement des travailleurs et des classes moyennes. Point final. Et ce n'est pas négociable. Nous mènerons cette bataille jusqu'au bout et nous gagnerons. Nous le devons à l'histoire. Nous sommes responsables du futur. Nous devons l'arracher à la boue où il est emprisonné depuis longtemps. Nous allons gagner. Nous allons écrire l'histoire.
J'ai comme le grand soir.
Et oui, avec cette arrivée au pouvoir, incarnée de façon très lyrique hein, par Alexis Tsipras, est-ce que vous l'avez vécu comme le grand soir de la gauche radicale, Aliki?
Moi, personnellement, ne représentant pas en ce moment Syriza, c'est pour être clair entre nous, mais représentant une femme de gauche qui se bat pour ça.
Vous êtes quand même...
Je continue à être membre de Syriza, de l'organisation de Paris. Je continue à conseiller en matière de politique extérieure et mon parti. Mais en ce moment, je ne parle pas en tant que représentante de Syriza. D'accord. Je parle en tant qu'Aliki Papadomichelaki. Donc, je pense que Syriza, il est venu au gouvernement et pas au pouvoir. Pour être au pouvoir, il faut avoir tous les leviers dans sa disposition.
Oui, vous n'avez pas encore une majorité pleine. On entendait le lyrisme de ce Premier ministre qui a reçu en France le soutien de Jean-Luc Mélenchon, le Front de Gauche, mais également celui de Marine Le Pen, présidente du Front National. Est-ce que ce soutien de ce parti d'extrême droite n'est pas gênant? Front National qui, je le rappelle, souhaite sortir de l'euro et de l'Europe.
C'est une question à poser à Madame Le Pen, pourquoi elle a soutenu Syriza.
Je peux quand même vous demander ce que vous...
Ah, mais bien sûr.
Comment vous sentez ce soutien?
Ce que je peux dire, moi, ce que le parti de Madame Le Pen, il dit qu'il se bat contre l'Europe, mais je ne suis pas certaine qu'il se bat pour le social, pour la démocratie et pour une Europe libérée du grand capital financier. Ça, je suis pas du tout certaine. Donc, on peut pas nous mettre sur le même tableau.
D'accord, mais en même temps, on observe une alliance qui fait grincer, une alliance étonnante entre Syriza et le parti des Grecs indépendants, qui est un parti très à droite, réputé pour ses positions ultranationalistes, xénophobes et homophobes. C'est une alliance qui doit vous donner à vous, Aliki, des sueurs froides.
Non.
Non.
Pas du tout. Parce que pour moi, la détermination de parti, s'il est à droite ou pas à droite, c'est s'il est patriotique ou pas patriotique au fond.
D'accord. Donc,
je pense que Anexartiti et l'INES n'ont pas donné des signes d'être xénophobes. Non. Ils ont donné des signes de vouloir être des patriotes qu'ils ne veulent pas vendre leur pays à des intérêts étrangers. Mmh. Et ça, pour moi, c'est le patriotisme. Le xénophobisme, c'est une autre notion que je pense pas que c'est le moment de la traiter aujourd'hui.
Donc, en fait, la scission gauche-droite ne veut plus dire grand-chose.
Ah si, il y a des différences.
Ah bah, écoutez,
nous,
si
par exemple,
la gauche compactisée avec un parti d'extrême droite, finalement, ça en met en cause.
Un parti de droite, extrême droite, c'est l'aube dorée en Grèce. Et tout d'abord, je voulais dire un mot concernant l'extrême gauche. Il n'y a que la France qui utilise l'extrême gauche pour définir une partie de la gauche parlementaire, c'est-à-dire le front de gauche. Dans d'autres pays européens, ça n'existe pas ça. Et ça, c'est aussi c'est une particularité française qui a ses racines dans l'histoire française, que c'est pas ma place de l'expliquer, c'est, disons, à la gauche française, parce que pour moi, Monsieur Hollande, ce n'est pas la gauche française.
C'est quoi?
C'est une partie du néolibéralisme, disons, la plus modérée.
D'accord.
Donc, moi aussi, j'ai ma représentation concernant la gauche, et je ne considère pas le parti européen de gauche que nous avons constitué comme une extrême gauche en Europe.
D'accord.
Nous considérons que c'est la gauche qui se bat pour les intérêts des populations de leur pays.
Qu'est-ce que le socialisme du 21e siècle pour Syriza?
Et dans ce statut, il dit qu'il ne peut pas avoir du socialisme sans liberté et démocratie. Donc, avec ces deux mots, il définit que ce qu'on appelait socialisme avant l'ex-camp socialiste, peut-être il avait certains acquis en matière de travail. Il n'y avait pas de chômage à l'époque, mais il n'y avait pas de liberté, de démocratie dans l'expression. Or, pour nous, le réel socialisme, il n'est pas encore éclos dans l'histoire humaine. Il y avait une forme qui était, disons, l'autre partie de la monnaie de la période du rapport de force d'après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y avait dans les deux cas des hégémonismes, il y avait dans les deux cas des aspirations de peuple qui, ni dans un camp, ni dans l'autre, n'ont pas été réalisées. Et donc, ce qu'on a appelé le socialisme réel n'a été que l'autre partie de la monnaie d'un capitalisme qui est devenu néolibéralisme.
Donc, vous avez l'intention de renverser cette pièce
non,
de monnaie?
On a l'intention de rompre cette double facette est d'aller vers une profonde transformation de la conception de la participation des citoyens dans leur vie. Qu'il n'y ait pas des espaces clos qui décident pour les citoyens et pour passer de la démocratie représentative vers une réelle démocratie participative.
Vous me rappelez Ségolène Royal, c'est drôle. Alors, puisque vous aimez l'Europe, Aliki...
Madame Ségolène Royal,
je sais pas si elle est à gauche ou pas, mais...
Elle est un peu loin de moi.
On va pas rentrer dans ce débat-là. Et que vous êtes grecque, que vous avez une voix de conteuse, on commence à le sentir, je ne peux pas ne pas résister à l'envie de vous demander qui était Europe dans la mythologie grecque.
Ah, qui était Europe dans la mythologie grecque? Eh bien, c'était une dame qui a été volée et que, en la tenant sur un taureau, elle est tombée de ce taureau dans les Dardanellia. Et c'est là où ça a été formé la différence entre l'Asie et l'Europe. Et je crois que cette Europe reste encore volée, malheureusement. Reste volé par des grands intérêts. Et il est temps que cette Europe descende sur terre pour pouvoir s'occuper de ses citoyens.
Alors, puisqu'on fait trempette un petit peu dans la mer Égée, j'avais envie, Aliki Papadomichelaki, que l'on poursuive deux minutes cette traversée dans votre culture première, la mythologie grecque, en nous posant une seconde sur un autre mythe. C'est vous qui me l'avez d'ailleurs soufflé à l'oreille, celui de Thésée et du Minotaure, dont vous nous dites qu'il est très actuel, mais il va falloir nous rafraîchir la mémoire sur ce mythe.
Eh ben, Crète est une partie de mes racines. C'est de Crète il vient mon père. Il y avait à Crète à l'époque de Knossos un roi qui s'appelait Minos. Et il paraît qu'il y avait un labyrinthe dans lequel se trouvait le Minotaure qui était moitié homme, moitié taureau, qui était la création de Zeus avec sa femme. Et comme c'était une honte pour lui et c'était un monstre, il fallait l'avoir quelque part, mais il fallait le nourrir. Et lui, il se nourrissait avec des humains. Et comme il avait perdu la guerre Athènes avec Knossos, et il était obligé d'envoyer 12 garçons et 12 filles chaque année pour que Minotaure les mange. Et les rois d'Athènes, à l'époque, il avait un fils qui s'appelait Thésée. Il a dit, moi je vais aller et je vais tuer Minotaure, je vais être parmi les 12 garçons. Il a fait, il a tué, et son père lui avait dit, si tu es mort, il faut qu'il y ait des voiles noires. Si tu retournes vivant, mets des voiles rouges. Mais lui, dans sa grande joie et dans son grand amour pour Ariane, la fille de Minos qui l'a aidé à sortir du labyrinthe, il a oublié de mettre de voile rouge. Et le père Égée, dès qu'il a vu le bateau retourner noir, il s'est jeté dans la mer. Et depuis l'époque, cet archipel s'appelle mer Égée.
Et alors, quelle
pour l'actualité, et pour nous, les labyrinthes existent encore. Les gens ne comprennent pas les choses, disons, complexes de la situation sociale, politique, économique qui existe actuellement. Et ça se peut qu'il y ait aussi un Minotaure à l'intérieur. Mais ce Minotaure ne peut pas être tué avec une lame par un seul homme. Et les gens peuvent comprendre. Ce Minotaure doit disparaître par, à mon avis très personnel, la destruction du labyrinthe et la possibilité de pouvoir voir qu'est-ce qui se trouve sous tous les palais.
Ça Ça, c'est joli. Bon, le Minotaure, c'est le capitalisme, quoi, on va dire.
Ouais,
hein,
disons. Votre... néolibéral, au moins.
Voilà. Votre couffin grec a l'air lourd, hein, Aliki, puisque vous le disiez à l'instant, votre père vient en fait du même endroit que Mikis Theodorakis, l'homme politique et le compositeur.
Crête.
Et votre mère vient du même coin qu'Ulysse.
Et pas tout à fait du même coin, c'est Ithaque.
Pas loin.
C'est une île, une de sept îles ioniennes.
Mais ça veut dire que vous êtes issu de deux cultures? La Crète a produit une culture et les îles ioniennes dont est issue votre mère, une autre culture?
Et si, parce que la Grèce, elle a été occupée par la Turquie, alors que les sept îles ioniennes faisaient partie de l'Empire vénétien. Ils n'ont jamais été occupés par les Turcs. Donc, dans leur historicité, ces sept îles maintiennent une partie de la culture italienne, qui n'est pas le cas du reste de la Grèce. C'est pour ça qu'il y a deux cultures.
Et vous vous sentez comme ça? Double.
Je me sens très bien. Ah ouais.
Alors la Crète a donc produit Mikis Theodorakis, que vous admirez beaucoup, et qui a mis en musique un poème du grand Odysseas Elitis. Comment vous prononcez ça en grec? Axion esti.
Axion esti.
Alors racontez-nous ce que c'est que ce morceau.
Ce n'est pas un morceau, c'est un long poème.
C'est un hymne.
C'est un hymne, c'est un livre, un petit livre, hein, tous les poèmes. Et il a été écrit pour traiter de la lutte du peuple grec et à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et de son effort de résister à l'invasion nazie, fasciste, des Italiens tout d'abord et des Allemands après. Et donc il traite de toute cette saga des luttes du peuple grec. Παρακαλώ σας μη, παρακαλώ σας μη, παρακαλώ σας μη, λησμονάτε τη χώρα μου. Sur une plage grecque un peu. C'est un hymne à la création signé Odysseas Elitis, mis en musique par Mikis Theodorakis, et le tout dans le panier en osier de la femme politique Aliki Papadomichelaki, de retour dans 3 minutes.
En sol majeur.
Retour en sol majeur sur Aliki Papadomichelaki, femme politique grecque qui aura été pendant 10 ans responsable du département politique extérieur de Syriza, le parti de la gauche radicale au pouvoir. Et donc depuis 20 minutes, grâce à la voix d'Aliki, la journée internationale des femmes est grecque, mythologique, le cœur à gauche, mais pas si radical que ça. Dans cette deuxième partie, vous allez découvrir une Aliki multiple, rongée par son amour de la justice. Économiste et militante depuis l'aube des temps, elle aura vécu la Grèce version camp de concentration, la Tchécoslovaquie version grève de la faim et l'Algérie version syndicalisme. Au fond, quand on reçoit une grecque telle que vous, je pense qu'il ne faut pas oublier de faire un petit peu de sémantique et de rappeler, par exemple, la devise de la Grèce, c'est quoi ?
Je pense que c'est la démocratie.
Il y en a une qui dit la liberté ou la mort.
Et si, le poète grec Solomos, il a dit à l'époque de la lutte contre l'occupation turque, c'était la liberté ou la mort. Et il était d'ailleurs écrit cette phrase sur le drapeau grec de l'époque. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut dire la liberté, la démocratie et la participation.
On dit ça
parce
comment en grec
hein? Ελευθερία, δημοκρατία, συμμετοχή.
Vous qui êtes grec et qui êtes issu de cette civilisation qui a donc inventé la démocratie, vous avez un bon mot d'humour d'ailleurs hein, sur la démocratie à la grecque.
Une amie m'a mis sur mon Facebook. D'ailleurs, c'est une amie algérienne et elle a dit ces Grecs sont un peu gonflés. Pas seulement ils ont inventé la démocratie, mais ils comptent bien l'appliquer.
J'aime beaucoup. Alors, avant de raconter la Grèce de votre enfance, une parenthèse encore, Syriza. Ce parti qui demande, pour régler sa fameuse dette publique, une indemnisation à l'Allemagne pour l'effort de guerre apporté pendant la Seconde Guerre mondiale, soit 162 milliards d'euros, ce qui correspondrait à la moitié de la dette. Et Berlin répond que cette histoire a perdu sa légitimité 70 ans après la fin de la guerre. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Oui. Tout d'abord, Berlin oublie de dire qu'après la fin de la guerre, il y a une guerre civile. Et à cette guerre civile, du fait que la droite, elle a pris le pouvoir en coopération avec certains collabos de l'époque. Collabos de l'Allemagne nazie. Donc, elle n'a pas revendiqué l'indemnisation. Mais les droits internationaux disent que quand il y a une guerre, il faut une indemnisation. Le peuple grec, il en a participé aussi au plan Marshall. C'est pas seulement les États-Unis, c'est toute l'Europe qui a participé d'une certaine façon. Et reconstruction de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, mais il a payé une deuxième fois l'Allemagne pour la réunification dans laquelle ils ont participé tout le peuple de l'Europe, y compris le peuple grec. Alors je ne vois pas pourquoi.
Donc c'est une revendication sérieuse
parce que mais c'est une revendication qui se trouve actuellement à la Cour internationale.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'instrumentalisation du passé dans cette revendication ?
Mais instrumentalisation avec 150 000 morts grecs, c'était le seul pays, la Grèce, qui n'a pas eu d'indemnisation. Et c'est un de deux pays qui s'est libéré tout seul, sans les alliés, la Grèce et la Yougoslavie. Oh là là ! Mais quel avenir a été donné à ces deux peuples qu'ils se sont libérés par leur propre lutte anti-nazie ? Donc, l'histoire, elle est surtout interprétée par les vainqueurs. Et le peuple grec a perdu à la guerre civile la suprématie de ceux qui ont libéré la Grèce, qui était surtout la gauche. Parce que c'est les gens de gauche qui ont réuni autour d'eux tout le peuple grec pour se libérer du nazisme.
Sarda, we'll
Avril 1941, ici Radio Athènes.
Ellines.
Grec. Les Allemands sont aux portes d'Athènes.
Adelphia.
Frères. Gardez fermement dans votre âme votre esprit de résistance.
Ellines.
Grec.
Silatis Carbies.
Attention.
Prosoki.
Dans quelques instants, Radio Athènes ne sera plus grec. Radio Athènes sera allemande et elle émettra des mensonges. Grec, ne l'écoutez pas.
Il déserte.
Alors, vous n'étiez pas né hein, au moment de cette annonce radio, Aliki Papadomichelaki, mais je vois que vous avez réagi quand même.
Bien sûr, je le considère comme un fardeau, comme un héritage fardeau de lutte que ma mère, qui était à l'époque comme communiste dans un camp de concentration de Folegandros, et elle est arrivée, elle, avec d'autres prisonniers politiques de l'époque, de fuir l'île est d'arriver à Athènes. Vous avez parlé du mois d'avril. Le mois de mai 1941, à Athènes, se constitue par 5 membres, 4 hommes et une femme, dont ma mère, ce qu'on appelait Ethniki Alilenki, la solidarité nationale. Une organisation qui a été créée avant le Front National de Libération pour s'occuper de la survie des Athéniens qui mouraient les premiers mois de la faim, au début de l'occupation, et les gens n'ayant pas de quoi nourrir, surtout à Athènes, leur famille, une fois qu'un membre de la famille était mort. On les jetait dans la rue pour pouvoir garder le coupon. Comment s'appelle ?
L'étiquette de rationnement.
Voilà, l'étiquette, merci, de rationnement. Et donc, à ce moment-là, 5 patriotes, dont une femme, ils ont formé cette organisation qui, à la fin de la guerre de libération anti-nazie, comptait 3 millions de membres. C'est un lourd fardeau de la fille d'une telle femme. Et après, ça a été déclenché la guerre civile. Ma mère étant du côté des perdants, des communistes, elle a été à nouveau renvoyée au camp de concentration de Makronissos avec beaucoup de patriotes, avec des communistes grecs, dont Mikis Theodorakis, Yanis Ritsos.
Vous êtes né, vous, à Trikala en 1944, Aliki. Vous vous retrouvez donc dans ce camp toute petite, à Makronissos, dès l'âge de 2 ans jusqu'à 5 ans et demi, puisque vous suivez votre mère. Vous allez nous dire ce qu'il vous en reste de cette période de vie, après avoir écouté un extrait du film « Comme des lions de pierre à l'entrée de la nuit », où la caméra d'Olivier Zuchua suit un champ de ruines, précisément là où se trouvaient les déportés, à qui on diffusait des discours de rééducation en permanence dans les haut-parleurs des camps.
Leçon d'éducation nationale. Comparons le corps de notre patrie, la Grèce, avec le corps humain. Notre organisme possède ses soldats, des globules blancs. Leur but est d'attaquer chaque microbe qui s'y introduit et de l'immobiliser. Ainsi, la patrie dispose, pour écraser ses ennemis, de ses propres globules blancs, ses soldats. Il y a quelques années, est apparu un nouveau microbe très toxique, peut-être le plus destructeur qu'ait connu l'humanité, le microbe communiste.
Το οποίο δια των τοξινικών του δοξασιών προσβάλλει όχι μόνο το σώμα,
À travers ses convictions toxiques, il contamine non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Qui plonge dans les ténèbres, qui l'embrouille et pousse à des actes antipatriotiques.
Extrait en sol majeur de Comme des lions de pierre à l'entrée de la nuit, avec des images terribles de ce camp de rééducation Makronissos en Grèce, dans lequel vous vous retrouvez toute petite avec votre mère, Aliki Papadomichelaki. Vous vous souvenez par exemple ça de ces haut-parleurs?
Bien sûr. Bien sûr, je me souviens des haut-parleurs, et je me souviens du vent qui frappait du matin au soir tous les camps. Vraiment, c'était comme de petites aiguilles qui nous blessaient. On vivait sous des tentes. Et le camp où j'étais, moi, c'était un camp que pour des femmes, prisonnières politiques. Et il y avait 13 enfants. Nos mères n'avaient pas où nous laisser ou ne voulaient pas nous laisser. Et je m'excuse d'ouvrir une parenthèse et vous dire qu'à l'époque, la reine grecque Frédéric, que c'était une reine importée allemande, mariée avec le roi grec, qui a participé aux jeunesses nazies à l'époque, comme en Argentine plus tard. Et elle s'occupait de prendre des enfants de communistes grecs et les vendre, parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont prouvé que ça existait, les vendre aux États-Unis à des familles qui n'avaient pas d'enfants. Comme ça, les enfants perdaient complètement leur identité. Et ma mère, qui a été arrêtée et déportée avec sa sœur, et mon père qui a été arrêté, condamné à mort, et qui ont arrêté aussi son frère.
Car lui aussi était un grand militant.
Si, était un grand militant antifasciste et membre fondateur du Parti communiste de Grèce.
Que vous n'avez pas connu quasiment, parce qu'il a été dans
mon père, il a été 17 ans en prison après la Deuxième Guerre mondiale. Et je l'ai connu une année avant de quitter la Grèce et partir pour mes études en ex-Tchécoslovaquie de l'époque. Donc, certaines mères étant très soucieuses de l'avenir de leurs enfants, ils ont dit, je préfère avoir mon enfant à mes côtés que de le perdre.
Oui, à mes côtés dans ce camp.
Dans ce camp.
Où la vie n'était pas une vie. C'est un camp de rééducation où il y avait de nombreux interdits. J'aurais pu choisir un autre extrait de cette propagande que l'on diffusait dans les haut-parleurs, où on disait par exemple, il est interdit de manger d'une manière communiste, parce que pour ces fascistes, il y avait une manière communiste de manger en groupe.
Tout d'abord, les enfants n'avaient pas de manger. Ils n'avaient pas droit au manger. Donc, chaque fois, il y avait une tante qui donnait un peu de manger chaque prisonnière pour assurer le manger des enfants. Parce que les enfants, ils n'avaient pas droit à une popote. Et il y a des images très dures. L'image de notre école. Il y avait des camarades qui étaient des grandes dames de l'enseignement grec. Et on avait la chance d'être nos maîtresses d'école. C'est avec elles qu'on a appris les premières lettres, à compter, à chanter.
À l'intérieur du camp, ça c'était autorisé.
Autorisé, pas autorisé, on les faisait. Parce qu'il faut une résistance, y compris à l'intérieur.
D'accord, c'était sans autorisation que ces femmes, oui, qui étaient elles-mêmes, oui, déportées...
Oui. Voilà. Alors, elles nous prenaient à des moments qui faisaient beau. Et sur un petit coin là, on regardait la mer. Et on apprenait à lire et à écrire, tout en apprenant notre histoire. Ça, c'est une grande chance. Parce qu'il y a des écoles fermées, sans horizon, où tu apprends à lire et à écrire, et tu sors diplômé sans connaître ton histoire.
Ça veut dire que j'ai une autre image à vous suggérer, Aliki. Vous avez appris à aimer la poésie sur les barbelés. Il paraît qu'il y avait des poèmes de poètes qui restaient accrochés, soit enfouis dans la terre, soit accrochés à des barbelés.
Ouais. Ritsos aussi l'écrit et il dit... Γύρω από την καρδιά μας το σειρματόπλεγμα. Γύρω από την ελπίδα το σειρματόπλεγμα. Δηλαδή, autour de notre cœur, le fer barbelé. Autour de notre espoir, le fer barbelé.
Justement, on va l'écouter sur une musique de Theodorakis, ce poème de, un poème de Ritsos qui dit « Ne pleure pas sur, sur l'agressité ». Ce qui est sûr, c'est que cette expérience des camps de concentration en Grèce, Aliki aura été fondatrice pour la future militante communiste que vous êtes devenue.
Oui, les images restent, mais la participation doit être pas seulement émotive, mais aussi consciente.
Traduction.
C'est un poème de Ritsos. Il dit l'agressivité, il faut pas la pleurer. Là où elle va tomber et se courber. Avec un couteau sur le dos et avec une laisse sur le cou. Parce que regarde-la. Regarde-la. Elle s'élève. Elle s'élève et elle est à nouveau debout. Et elle est à nouveau créatrice.
Et l'agressivité, là, en l'occurrence, c'est la souffrance hein, des Grecs entre 1945 et 1947. Retour en sol majeur sur 2015, une année où Aliki Papadomichelakis sable la victoire de Syriza. Alors, vous la sablez au champagne ou au raki?
Au raki.
Incorrigible.
H comme Ouria.
Je sais pas si je vais pouvoir y mettre l'accent mieux que Chirtidiensek, la voix dans sol majeur. Ouria, c'est un mot que vous connaissez bien en arabe.
Oui, c'est liberté.
Vous le connaissez aussi en tchèque?
Svoboda.
Et en grec, vous nous le disiez tout à l'heure.
Ellefthelia.
Oui. La liberté, c'est le mot qui vous fait lever encore chaque matin.
Ah, la liberté.
Après tant de désillusions, en même temps, vous n'êtes pas dupe des hommes.
Vous savez, qui est le poète qui n'a pas écrit quelque chose sur la liberté? Ça suffit comme réponse.
Est-ce que la lutte pour la liberté, ça nourrit son homme? Vous vivez de quoi aujourd'hui?
Je vis de quoi aujourd'hui?
Oui.
Eh bien, je peux vous dire de 500 euros d'une retraite provisoire grecque en attendant ma retraite normale et depuis il y a 4 ans.
Donc, ça nourrit chichement son homme.
Et la liberté? Ça dépend qu'est-ce que c'est prioritaire pour vous comme nourriture. Et je peux avoir ma petite popote, mais... Oh, la nourriture de la liberté, combien cher et difficile. Vous savez, il y a des milliardaires qui ne peuvent pas se nourrir d'un brin de la liberté que je me nourris, moi.
Alors, vous avez vécu la Grèce, vous avez vécu la Tchécoslovaquie, vous avez vécu l'Algérie. On n'a pas le temps, malheureusement, de rentrer dans l'aspect un peu existentiel, la manière dont vous avez vécu effectivement ces trois expériences. Mais une question quand même, est-ce que vous sentez appartenir au récit national de chacun de ces pays?
Une fois, quelqu'un m'a demandé, finalement, tu crois, toi? Je dis, eh ben, quand j'entends des chansons grecques, je vibre. Quand j'ai réfléchi politiquement, je suis algérienne. Parce que je vivais en Algérie à l'époque. Et quand je veux faire avancer ma rationalité, je suis tchèque.
Ah bon, pourquoi?
Parce que les Tchèques sont très rationnels.
Alors vous faites quoi de votre grécité alors?
Ah mais ma grécité se nourrit de tout ça.
C'est une dévoreuse en fait. C'est elle le Minotaure.
Ma grécité se nourrit de ça. Parce que si on est grec et on s'enrichit pas des expériences des autres peuples, on reste nationaliste. Si on s'enrichit, on devient patriote. Entre autres.
Du coup, vous êtes retrouvé de 65 à 75 en Tchécoslovaquie et je me disais que vous nous racontiez effectivement ce combat de vos parents contre le fascisme parce qu'ils étaient communistes. Vous êtes finalement passé de l'interdiction d'être communiste à l'obligation d'être communiste. Parce que même si la Tchécoslovaquie a joué cette carte du socialisme à visage humain, c'était quand même une dictature.
Personne ne m'obligeait d'être communiste en Tchécoslovaquie. D'ailleurs, il y avait la plupart des étudiants d'Afrique. Il faut dire que c'était des enfants de l'élite africaine, avec des voitures, avec de l'argent qui est changé au marché noir, etc. C'était pas mon cas. Donc, ça veut pas dire qu'il y avait que des étudiants communistes qui étudiaient en tchéco.
Mais vous voyez ce que je veux dire, Aliki.
Du monde. Et être
vous
obligé.
Passé d'une extrême à l'autre.
Moi, je ne me sens jamais obligé d'être quelque chose parce qu'il m'est imposé d'en haut.
Oui. Et effectivement, vous n'avez pas été sourde à la souffrance de certains Tchécoslovaques, notamment vous avez été marquée en 69 par l'immolation de Jan Palch, ce jeune étudiant en histoire. Il faut peut-être rappeler le sens de cette immolation qui échappe malheureusement à notre mémoire contemporaine.
Oui, Jan Palach s'appelle en tchèque Palach en français. Palach, c'était aussi un étudiant qui n'a pas pu supporter ni au plan émotif, ni au plan politique, peut-être, je ne le connaissais pas, je ne peux pas le demander, la occupation de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques est une des formes qui a trouvé extrême d'exprimer son désaccord, c'était de s'immoler. Pour une communiste comme moi, qui veut être proche du peuple, ça ne pouvait être qu'un grand ébranlement.
Ça a remis en cause
Ça m'a posé... Non, dire que j'ai remis en cause, c'est trop dire. Mais ça m'a posé beaucoup de questions. Parce que vous voyez, à l'époque, il y avait deux camps. Le camp socialiste et le camp capitaliste. Dans mon pays, il y avait le fascisme. Pourtant, c'était, disons, l'Europe libre.
Ça vous fait rire, oui.
L'Europe libre. Et donc, pour moi, ce n'était pas un choix simple, être dans ce camp ou dans un autre camp.
Est-ce que je peux poser une dernière question?
Ouais.
Après un début tragique avec votre terre natale, est-ce que vous avez l'impression, avec la victoire de Syriza aujourd'hui, de venger un petit peu le destin de vos parents?
Venger, non. Jamais venger. Qu'est-ce que ça veut dire venger?
Ce sont je rappelle, vos parents ont été mis à l'écart de toute une vie pour leur foi dans le communisme.
La lutte des gens de gauche, c'est pour créer, ce n'est pas pour venger. Sinon, ils ne sont pas d'avenir. Ils font partie du passé. Et moi, je ne vais jamais être du passé. Je vais toujours avoir les yeux comme fixés vers l'avenir. C'est ma seule façon de vivre et ne pas trop vieillir.
Ils sont tous comme ça, comme vous, à Syriza?
Je ne peux pas parler au nom de tous de Syriza. Je parle de moi en ce moment.
On va terminer en se laissant bercer par une légende judéo-arabe, à savoir la voix de Renette Loranaise. Ça, c'est pour vos années algériennes.
Elle m'accompagne toute ma vie depuis l'époque où je l'ai connue. Et je trouve que ce qui lui manque en vue, parce qu'elle était aveugle, et le prolonge profondément dans la musique, dans le son. C'est parfait.
Yeah.
Majeur avec Twitter, Facebook et puis derrière le poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 15h à Paris, les grandes oreilles de Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On se retrouve la semaine prochaine avec un ex sans papier, Maudit Sacco. À la semaine prochaine.